Le masque, le gel et la plume. Bonjour à toutes et à tous, et voici en ce dimanche 26 avril, par le miracle du téléphone, pour vous remercier de votre fidélité et vous exprimer la nôtre, le sixième épisode du Masque et la Plume pour temps de confinement consacré à la littérature avec chacun chez soi et tous ensemble Olivia de Lamberterie de Elle. Salut Olivia. Patricia Martin, à peine sortie de la matinale de France Inter. Bonjour Patricia. Jean-Claude Raspienjas de La Croix et Arnaud Vivian du nouveau magazine littéraire de Transfuge et de Regard. Bonjour à tous. Pour parler de livres papier ou numériques, classiques ou modernes, et aujourd'hui du Hussard sur le toit, de la nuit atlantique, de l'espion inattendu, de l'avenir des simples et de la sentence de John Grisham. Bien sûr, en fin d'émission, vos précieux conseils. Ici Radio France Inter, les lecteurs parlent aux lecteurs. Et toujours dans le volumineux courrier de la semaine, Almar nous écrit une émission sur la littérature, c'est super, nous en raffolons, mais où peut-on acheter des livres en ce moment ? J'adore votre émission, ajoute Chantal, elle suscite d'énormes envies de lecture, mais où se procurer des livres sans passer par les plateformes géantes ? Eh bien, à toutes celles et tous ceux qui me posent la question, et la même question cette semaine, je signale qu'a été mis en place depuis quelques jours le service Click and Collect, on aurait pu, c'est vrai, le désigner en français. Vous commandez votre livre à votre libraire par internet ou téléphone, et vous allez le retirer sur le pas de la porte de la librairie, comme beaucoup d'autres.
Nelly, d'ajouter quelque chose. C'est qu'il y a Olivia. Un site génial qui s'appelle jesoutiensmalibrairie.com et qui fait justement le recensement de toutes les librairies qui font ce service à côté de chez toi, dans toute la France.
Ah, formidable.
Ça s'appelle jesoutiensmalibrairie.com.
Et donc ça, tu le trouves...
Ouais, très très bien.
Comme beaucoup d'autres, Nelly nous remercie d'avoir parlé du Grand Maulne d'Alain Fournier, qu'elle a fait étudier à ces jeunes collégiens. Je suis sûr qu'ils en gardent un goût de féerie. Carole nous dit que sa fille de 13 ans, Félise, l'a adorée. Du coup, nous avons lu ensemble plusieurs chapitres et c'est un vrai régal. À propos de Cher Jeudi de Clovis Gou, c'était chez Stock, on en a parlé il y a 15 jours. Serge Rogazic, qui nous écoute en podcast depuis Southampton, à l'est de New York, où il est confiné, est déçu d'entendre les États-Unis traités par les critiques du masque de pays de cinglés. N'oubliez pas que ce pays est le miroir de notre société mondiale, que la coiffure de Trump n'a rien à envier à celle de Boris Johnson et qu'ici, le meilleur côtoie le pire. Issey Chevreau rappelle d'ailleurs à une critique du masque que les Américains ne sont pas les seuls à tuer par arme leur président et qu'en France, Sadi Carnot et Paul Doumer ont été assassinés également. Et puis dans l'abondant courrier de nos auditrices et auditeurs confinés, Jean Jaël recommande « L'amour au temps du choléra » de l'immense Garcia Marquez, un livre qui vous dit quoi faire en temps d'épidémie sans faire offense à Camus, ajoute Jean Jaël, entre la peste et le choléra. Je choisis le deuxième. Pascal Salazar conseille pour sa part le roman d'Isaac Asimov, « Face au feu du soleil », prémonitoire, nous dit-il, sur les gestes barrières et la fin des contacts physiques. Véronique Sabatini de Pernes-les-Fontaines dans le Vaucluse préconise la formidable biographie de Jean-Yves Tadier sur Marcel Proust qui vient de paraître chez Gallimard. Et elle ajoute joliment « Et quand Proust est mort, j'ai pleuré comme une madeleine ». Enfin, un auditeur, Rémi Louis, nous remercie de réussir à maintenir le masque et la plume et il ajoute en précisant qu'il faut y mettre l'accent gaulien, le masque empêché, le masque confiné, le masque renommé, mais le masque préservé. J'aime beaucoup ça. Et on commence, si vous voulez bien, mes amis, avec le Hussard sur le toit de Jean Giono, disponible en folio. Giono, mort il y a 50 ans, dont vient de paraître dans la Pléiade. Un roi sans divertissement et autres romans, Giono à qui les Cahiers de Lerne consacrent un beau numéro spécial, tandis que les éditions de Mince rééditent le livre émouvant que lui a consacré son ami Jean Carrière. Si j'ai inscrit Le Hussard sur le toit, roman paru en 1951, c'est évidemment qu'il est rattrapé par la pandémie. Un jeune colonel de hussards, qu'on croirait sorti d'un roman de Stendhal, Angelo Pardi, fuit le Piémont après avoir tué un officier autrichien. Il part retrouver un ami, Carbonaro, comme lui, qui est exilé à Manosque. Et il découvre, on est vers 1832, une Provence ravagée par le choléra, où les routes sont barrées, les villes sont barricadées, les voyageurs sont mis en quarantaine, et où les meilleurs lieux de confinement sont les toits de Manosque. Il découvre aussi, et c'est aussi ravageur que le choléra, l'amour en la personne de Pauline de Théus, un roman d'aventure écrit dans une prose magnifique, je trouve, et où, pour reprendre les mots de Giono dans une interview, le choléra est un réacteur chimique qui met à nu les tempéraments les plus vils ou les plus nobles. Qui a lu, relu parmi vous ce Hussard sur le toit, Olivia?
Écoute, je ne l'avais jamais lu et je te remercie du fond du cœur parce que j'ai trouvé que c'était absolument splendide. Je trouve que la manière dont il décrit la Provence écrasée de chaleur est sublime. Je trouve qu'il a une manière de peindre des images extraordinaires, aussi bien sur la nature, quand il dépeint les forêts qui fondent comme des blocs de lard, que les hommes. À un moment, il y a un homme qui monte à cheval et on dit l'homme montait comme un sac de cuillère. J'ai trouvé que c'était génial parce que tu le vois. Mmh. Et puis au milieu de ce paysage d'horreur, avec les odeurs, les squelettes des animaux, il y a la peur. J'ai trouvé que c'était un grand livre sur la peur, et avec ce héros extraordinaire dont je suis tombée folle amoureuse, qui est d'une noblesse, d'une bonté, d'une ingénuité. Tu l'as dit, c'est comme un héros de Stendhal, et avec des scènes qui, je sais, resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Alors il y a évidemment la scène avec le médecin, ce médecin qui veut absolument sauver un homme, et cette scène qui fait écho d'ailleurs à Camus, lorsque Angelo et donc ce médecin essayent de sauver un petit garçon de la mort en le frictionnant. Et puis un autre personnage extraordinaire, c'est celui de la nonne. Au cours du récit, Angelo va rencontrer une nonne qui rentre dans les maisons et qui se charge de remettre les cadavres en état pour leur entrée au paradis. Et dès qu'elle rentre, elle prononce des mots magiques. Elle dit « Où sont les draps ?» Et hop, tout d'un coup, Giono écrit « Les murs ne contenaient plus de drames ». Moi, j'ai trouvé que c'était un livre extraordinaire. Et pour finir, j'ai trouvé sur France Culture l'enregistrement d'une adaptation de ce Hussard avec Gérard Philippe et Jeanne Moreau.
Qui est formidable.
Et c'est sublime. Ouais.
Cette version radiophonique du Hussard sur le toit qui date de 1953, qui a été réalisée par René Villemay. Exactement. Avec Gérard Philippe qui joue Angelo, Jeanne Moreau qui est formidable en Pauline, et le médecin dont tu parlais est joué par Jean Topard. Et c'est suivi d'un entretien de Giono avec Jean Carrière. Et c'est vrai que c'est une petite merveille. On l'a, grâce à France Culture, redécouvert. Et maintenant, on peut, je le dis à nos auditeurs, l'écouter autant qu'on le veut. Même émotion, Jean-Claude, à relire ce Hussard?
Oui, une émotion un peu tempérée. Alors, émotion, oui. Giono, justement, dans l'adaptation dont vous parlez sur France Culture... Je vais vous dire. Dans l'adaptation à France Culture dont vous parlez, il y a Giono qui fait une sorte de préambule et qui dit « Le Hussard sur le toit, c'est une histoire qui commence au pas d'un cheval et qui marche ensuite au galop. » Il y a évidemment Angelo et Pauline. Il y a le choléra, le livre en regorge. Il y a la nature et il y a aussi les chevaux. Les chevaux sont des vrais personnages dans ce livre.
C'était le cas aussi dans le film de Rapneau, d'ailleurs.
Oui, absolument. Oui, ce livre regorge du choléra. Et ce qui est très intéressant dans l'évolution du personnage d'Angelo, c'est que au début, il s'y précipite vers le choléra, il s'y engouffre en toute innocence. Et puis, au fur et à mesure qu'il avance, il commence à feinter le choléra. Il commence à prendre un peu ses distances et il ne retrouve la proximité avec le choléra qu'au moment où il sauve Pauline. Angelo, c'est un personnage assez intéressant parce que c'est un personnage d'une grande pureté, d'une naïveté, d'innocence. C'est un être solitaire, chevaleresque, face à l'égoïsme, parce que Le hussard sur le toit, c'est aussi un roman sur l'égoïsme et la peur, on l'a dit, mais c'est aussi la pestilence du corps social, comment le corps social se défait aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune autorité, il n'y a plus rien qui tient, il y a des rumeurs partout, il y a des boucs émissaires, on cherche les empoisonneurs de Fontaine, et d'ailleurs Angelo manque de se faire tuer à l'occasion, il y a des lynchages à tous les coins de rue, d'un seul coup l'épidémie fait tout exploser, c'est-à-dire les relations personnelles, les relations collectives, il ne reste plus rien. C'est aussi, alors ça Olivier a beaucoup insisté, un livre olfactif, physique, minéral, et là on voit le génie des
visuels et visuel
oui, mais le génie du travail de Giono pour faire des grandes descriptions très longues, très très étirées sur la nature, les décors, les paysages, sur les signes absolument atroces de la maladie, mais vraiment d'ailleurs oui. Ceux qui le liront ou qui le reliront, je doute qu'ils aient envie de reprendre du riz au lait pendant des mois, hein, franchement, parce que je insiste beaucoup sur l'analogie avec le riz au lait, oui. Mais d'une façon qui est même oui, assez vrai. Insupportable à un moment. Pourquoi je suis un peu mitigé, c'est que j'ai trouvé malgré tout qu'en 2020, si vous voulez, il se passe, tout à l'heure, il y avait un auditeur qui disait entre la peste et le choléra, ben précisément, il y a un petit match qui s'est joué là, si vous voulez, entre la peste et le choléra, ils sortent pas si loin l'un de l'autre, la peste sort en 47, le hussard en 51, et pour moi, ça a été l'effet inverse. C'est-à-dire que la peste partait avec une sorte de réputation un peu poussiéreuse, et le hussard avait un éclat absolument magnifique. Et en le lisant, je dois dire que la peste, en tout cas de mon point de vue, l'emporte vraiment par rapport au Giono, parce que je l'ai trouvé lourd, je l'ai trouvé quand même à la longue massif, trop rempli, trop long à un moment, et je trouve que d'une certaine façon, il vieillit pas si bien que ça, et en tout cas, comparé à la peste, je trouve qu'il n'y a pas photo.
Et je te rappelle que Giono, qui avait du génie hein, pour moi dans l'écriture, était pas non plus forcément modeste et qui disait, il avait dit une fois qu'il préférait son choléra à la peste de Camus. Patricia.
Giono, ce qui est incroyable, c'est qu'il a souvent été finalement enfermé dans une catégorie d'écrivain de la nature, avec Anne Beaumune, avec Regain, justement comme quelqu'un qui date. Or, c'est un grand, grand romancier. La langue est belle, elle est même splendide. Et puis, cette découverte que va faire Angelo, effectivement, je partage ton amour pour lui, ma chère Olivia, parce que j'aurais bien aimé, évidemment, on aimerait bien être Pauline. C'est ces corps qui tombent, c'est ces visages noirs, c'est aussi la résignation, tous ceux qui disent tant pis, même les médecins, et on se casse. C'est mélodieux, c'est dépouillé. Il y a une vision très personnelle hein, qui va bien au-delà de la description. Il y a une analyse aussi de la civilisation moderne et de l'ironie. Tu parlais tout à l'heure, Olivia, de la fameuse nonne.
Oui.
Quand il se retrouve dans la rue, une rue déserte, clochette à la main, il y a des mouches, il fait chaud, il y a une femme qui appelle à la fenêtre, donc ils y vont, son mari est en train de mourir. Et la nonne, c'est drôle comme scène. Elle trouve que cet homme est trop pressé de mourir et elle dit bon, allez, chacun son tour, ça va venir. Oui. Chaque chose en son temps. Et c'est dit d'une manière, il faut quand même oser, parce que même dans la pire horreur, il nous soulage en quelque sorte du poids de cette horreur par les paroles de cette nonne. Non, c'est un grand roman.
Et Arnaud, qu'en pense-t-il du Hussard sur le toit ?
Je ne l'avais jamais lu non plus, je dois avouer, je l'avoue bien volontiers d'ailleurs. Peut-être à cause d'Aragon d'ailleurs, qui, je me souvenais que Aragon a écrit Une semaine sainte en pensant, je vais montrer à Giono ce qui est vraiment un roman stendhalien. Et ça m'a peut-être bloqué pendant longtemps. après là, cette lecture, je vais peut-être continuer un peu à arrêter de fumer. C'est absolument incroyable comment Giono insiste sur les cigares. Le fait que Angelo préfère fumer que boire ou manger très souvent et qu'il est toujours en quête d'un petit cigare. Ça, c'est étonnant quand oui. On sait le propos que l'on tient en ce moment sur la nicotine par rapport au Covid-19. Donc il y a sans doute une vision, je me suis demandé s'il y en avait d'autres finalement par rapport à la situation que nous vivions hein. Dans ce roman. J'ai beaucoup étudié son déconfinement, c'est-à-dire le moment où il quitte les toits. Alors il y a quand même, il faut bien le dire, un effet Tinder. Évident, c'est qu'il quitte les toits après avoir rencontré Pauline. Alors certes, il va quitter les toits où il pouvait sans doute encore peut-être la rejoindre, mais enfin, on voit bien, oui, une sorte d'effet Tinder. Et puis, vous en avez parlé, évidemment, de ce personnage de la nonne, qui est sans doute le personnage le plus incroyable, qui va donc nettoyer les morts pour qu'ils arrivent propres devant Dieu. Alors là, j'ai presque envie de me tourner vers le journaliste de La Croix, quand même. On se souvient que François est le saint qui nettoyait les lépreux. Et quand on voit les images du pape François tout seul sur la place Saint-Marc, on se demande en ce moment ce que font d'ailleurs toutes les églises. On a l'impression qu'il y a un abandon là de cette fonction qui était évidemment de soigner les malades.
Le hussard sur le toit, c'est Jean Giono, c'est donc en folio et dans d'autres éditions. Ne manquez pas, si par chance vous avez mis la main sur la récente pléiade donc Giono qui vient de paraître chez Gallimard, ne manquez pas un tout petit texte qui est un conte merveilleux qui s'appelle « L'homme qui plantait des arbres ». Et puis, comme Olivia, je signale ce podcast disponible sur France Culture de la version radiophonique du Sar sur le toit avec Gérard Philippe qui avait vraiment le physique d'Angelo et Jeanne Moreau en Pauline. L'espion inattendu, c'est le roman traduit chez Liana Levy par Marianne Forobert que consacre Ottavia Casagrande à son grand-père Raimondo Lanza di Trabia, prince dandy sicilien qui fut au début de la Seconde Guerre mondiale l'espion numéro un à la solde du ministre des Affaires étrangères italien, par ailleurs gendre de Mussolini. La mission de cet espion, dont on sait qu'elle ne fut pas couronnée de succès, était de tout faire pour empêcher l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés du Reich et son alliance avec Hitler. Il a été amoureux d'une espionne britannique, il a infiltré une cellule nazie dans le sud Tyrol, il a traversé la France en pleine débâcle, il a même rencontré en tête-à-tête Churchill. Je parlais de Stendhal à propos de Giono, là j'ai pensé beaucoup plus à Romain Gary en lisant L'espion inattendu d'Ottavia Casagrande, qui par ailleurs d'ailleurs vient de signer plusieurs textes assez forts sur le coronavirus et sur le confinement, mais j'en dirai un mot après. L'espion inattendu, qui l'a lu, Jean-Claude ?
Ah, c'est dommage de commencer par moi, parce que moi, je veux dire que j'ai été très déçu par ce livre, que j'ai trouvé, autant le sujet avait tout pour être follement intéressant, et le résumé que tu en fais donne vraiment envie de connaître l'histoire de ce dandy.
Il n'est pas mensonger, hein, pour l'histoire.
Non, je remets pas en cause la véracité historique de ce qu'elle raconte, mais la déception, mais qui est vraiment profonde, qui est forte, c'est le style de ce livre, c'est que j'ai trouvé mièvre, que j'ai trouvé inadapté à l'enjeu de l'histoire. J'ai trouvé que ça sonnait faux, je trouvais que c'était artificiel, je trouve qu'il n'y a pas de style, il n'y a pas vraiment d'univers. C'est très souvent fade, enfin sans relief. C'est assez souvent ridicule de mon point de vue, en tout cas. Des situations totalement invraisemblables, telles qu'elle les raconte. C'est-à-dire que je ne remets pas la véracité historique de ce qu'elle raconte.
Par exemple.
Par exemple, il y a plusieurs choses. La scène à Cinecittà, je la trouve mais ridicule. La sortie dans le corbillard. Je trouve ça, la façon dont elle le raconte, je trouve ça tout à fait invraisemblable. Et puis alors, que Churchill décide de la suite de l'engagement de la Grande-Bretagne juste sur un mouvement de tête de Raimondo. Enfin, je veux dire, tout ça est quand même assez invraisemblable. Moi, je l'ai lu, en tout cas, de façon très agacée par ce style, que je trouve pas du tout adapté. Enfin, je trouve ça pas bien, enfin, pas
oui,
bien.
Oui, Jean-Claude, t'as raison.
Et ça ressemble à une sorte de roman feuilleton, de mauvaise facture, et au fond, assez inepte par rapport à l'enjeu. Voilà.
Bon, alors, Patricia, qui est un peu notre italienne du masque et la plume, j'ai toujours envie de l'appeler Patricia Martini. Qu'est-ce que tu penses de l'espion inattendu, toi ?
Est-ce que tu es moins dur ? C'est avec un Z. Je serais moins dur quand même.
Si tu veux.
Du moment que ça se passe en Italie, je suis contente. Il y a des côtés presque féminins, quand par exemple, tout à coup, au milieu d'un marché, on entend un orgue de barbarie. Il y a des moments ubuesques, des déguisements d'opérette, quand il se fait en tyrolien. Je trouve que quand même, il y a des choses qui font que j'ai...
Il y a une histoire avec un éléphant.
Maintenant, attendez. Cette histoire est tellement improbable qu'on aimerait qu'il y ait plus de ressorts sur le plan littéraire, que...
Encore une fois, elle n'est pas invraisemblable, elle est vraisemblable, elle est vraie.
Non, mais elle est vraisemblable, mais il faudrait un bain politique en arrière-plan plus large. Il manque de toute évidence une ampleur à ça. On a envie de quelque chose de flamboyant, d'abondant, d'une espèce de folie. Et on se dit que, je ne sais pas, moi, un Robert Little, un John le Carré, ou même un Roberto Saviano... nous aurait fait 600 pages là-dessus absolument addictives. Je trouve qu'effectivement, c'est un peu pauvre par rapport à la, encore une fois, à la folie de l'histoire qui est racontée et qui est vraie.
Arnaud, je te sens assez proche de Jean-Claude à t'entendre.
Ah oui, tout à fait. Mais oui, bien sûr, Jean-Claude a totalement raison. Et comparer ça à Romain Gary, c'est insulter Romain Gary. Hein. C'est écrit comme du Ian Fleming qui aurait épousé Barbara Cartland. C'est exactement ça. Je veux dire, au bout d'un moment, je veux dire, la fenêtre entre ouverte, le vent qui entre, les deux corps entremêlés sur le lit et la vague de cheveux qui fait des vagues sur les dredons, vous n'en pouvez plus, quoi. Vous dites non, mais c'est pas possible. Si j'ai bien compris, cette dame avait par ailleurs écrit au préalable avec sa mère, donc l'enfant de son grand-père. Elles avaient écrit toutes les deux une biographie qui, à mon avis, est sans doute. J'aurais préféré lire. Et là, ce qu'elle a décidé de faire, c'est d'utiliser son grand-père et d'en faire un roman, encore une fois, d'espionnage, mais qui tient pas du tout la route. L'espionnage est un des genres les plus compliqués à maîtriser. C'est vraiment une affaire de précision. Là, franchement, encore une fois, vous roulez de cliché en cliché et vous n'y croyez plus. Et c'est bien dommage parce que sans doute qu'effectivement, une grande part, sinon tout est vrai. Mais et voilà, on ne peut pas accrocher. Il y a un pacte de fausseté qui est signé immédiatement avec le lecteur alors qu'on attend un pacte de vérité. Ben non, ça marche pas.
Olivia, est-ce que tu vas sauver cet espion inattendu ?
Mais non, je ne vais pas le sauver parce que je suis tout à fait d'accord avec Jean-Claude. Je trouve que ce qui ne marche pas, c'est le ton. C'est-à-dire que c'est une histoire très grave, mais qui est racontée sur un ton prime sautier, un ton extrêmement léger. Donc il y a une sorte de gouffre, je trouve, entre le propos et la manière dont il est raconté. Et puis le héros lui-même est tellement sémillant, pétillant, je ne sais pas, à côté James Bond, c'est une sorte de rabat-joie besogneux. Et au milieu du livre, moi tout d'un coup j'ai vu OSS, j'ai vu Jean Dujardin.
Ouais. Tout. Oui, c'est exactement
c'est
ça.
C'est vrai, c'est exactement ça.
J'ai eu l'impression que cet espion, quand même, c'est comme des enfants qui jouent à être espions. Hein. C'est très curieux de savoir que cette histoire est vraie, mais que tu n'y crois pas du tout. En même temps, il y a un vrai charme de l'Italie, il y a un vrai charme de ce personnage qui sauve un peu l'ensemble. Mais c'est vrai que je n'ai pas été transcendée par ce livre, non.
Bon, bah, je vous trouve bien dur avec cet espion inattendu Ottavia Casagrande chez Liana Lévy, d'autant que la période, encore une fois, est passionnante. Et je pense que si vraiment l'Italie a failli ne pas se ranger aux côtés d'Hitler, je pense que si cette histoire est vraie, en tout cas, elle mérite quand même d'être racontée. Ottavia Casagrande, qui vient d'ailleurs de signer deux textes dans la presse italienne et française sur le confinement, et où elle dit notamment que ce maudit virus veut nous couper le souffle, mais il ne parviendra pas à nous priver d'esprit, parce que ce n'est pas le plus fort ou le plus intelligent qui survit, écrit Ottavia Casagrande, mais celui qui s'adapte le mieux, et c'est Darwin qui l'a écrit. Vous écoutez bien le masque et la plume, un masque téléphonique, vous le savez, un masque fait maison, un masque de protection qui ne protège pas, Dieu merci, contre le virus de la lecture, la preuve avec le livre suivant, qu'est la sentence, traduit chez La Thèse par Dominique Defer, le nouveau thriller judiciaire de John Grisham. L'auteur, faut-il le rappeler à nos auditrices et auditeurs, de tant de romans portés à l'écran, dont La Firme, L'Affaire Pélican, L'Idéaliste, Le Client, Le Droit de Tuer ou encore Le Maître du Jeu. La sentence, eh bien, ça commence en octobre 1946. Pete Banning est revenu dans son Mississippi en héros médaillé. Après la Seconde Guerre mondiale, il est devenu un infirmier et un fidèle, c'est très important, de l'église méthodiste. Or, un matin, cet homme exemplaire, dont l'épouse a été internée quelques mois plus tôt, part pour la ville. Il sort son Colt 45 et il abat son ami, le révérend Dexter Bell. Au shérif qui l'interroge, Pete répond « Je n'ai rien à dire ». Évidemment, ça me permet de vous demander à vous, les critiques, ce que vous avez à en dire. Et on va commencer par Arnaud, donc déçu par l'espion. Est-ce que tu l'es moins par la sentence de Grisham ?
Absolument moins, oui, là c'est du sérieux, là On parle vraiment de... Alors évidemment, on peut dire... J'entendais récemment une chronique sur France Culture où était utilisée l'expression « littérature complexe ». Alors, c'est vrai que Grisham, on pense qu'il fait de la littérature industrielle. C'est une expression que Sainte-Beuve utilisait déjà en 1839, la littérature industrielle. Et effectivement, ouais, c'est du lourd. C'est du lourd, c'est l'usine, mais avec un seul ouvrier, Grisham. Alors on sait, hein, lui, c'est un avocat. Il écrit sur la loi. Et ce qui est formidable, si vous voulez, c'est que ça fait donc 450 pages. Et c'est écrit comme un texte de loi, justement. Il n'y a pas un adjectif en trop. C'est précis. L'information.
Pages.
Pardon, oui, 540 pages.
Mais
je... Je les ai pas vus défiler, sincèrement. Alors évidemment, ce qu'il raconte, le mieux, ce sont les procès. Le compte-rendu des procès qu'il fait, et c'est vraiment puissant parce que il y a une pensée derrière tout ça, une pensée de la loi, très forte, la loi qui permet d'envoyer un homme sur la chaise électrique, la loi qui permet de spolier des enfants qui n'ont rien à voir avec les actes qu'ont commis leurs parents. C'est cette loi-là dont il est question, et de deux types d'avocats finalement, le bon et le véreux. Il y a un avocat véreux dans cette histoire, qui est un vrai salopard. Et alors ce qui est formidable, c'est qu'il faut qu'il trouve un prête-nom pour défendre sa cause, il peut pas le faire lui-même quand même. C'est un salopard, mais quand même il y a des lois. Donc il trouve un autre avocat véreux pour tenir les procès qui vont lui permettre de devenir riche aux dépens des victimes qui n'ont rien fait. C'est absolument passionnant, absolument romanesque, et c'est vraiment du très 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 grand John Grisham.
Et puis c'est aussi un bon portrait du Sud américain de
exactement, oui, de évidemment, avec la question du racisme qui se pose là, évidemment, voilà, d'une manière, comment dire, dégueulasse.
Je précise d'ailleurs que cette sentence qui est sortie, je crois, en février, continue de marcher très très fort, et en version électronique et en version papier, preuve que les gens aussi, en période de confinement, ont envie et ont peut-être besoin de John Grisham. Olivia?
Oh, j'ai adoré, je l'ai dévoré jusqu'à la dernière phrase pour trouver le fin mot de l'histoire. Et en même temps, je trouve que c'est un livre à l'ancienne, parce que c'est un livre qui prend son temps. Le rythme est assez lent, on met un assez grand moment à s'installer dans cette histoire auprès de cet homme qui est un personnage inouï. Cet homme qui tout d'un coup décide d'aller tuer le pasteur, et décide de se taire. On ne saura rien de ses intentions, et il se laisse aller à son jugement sans jamais se défendre. Et en même temps, c'est un livre totalement à tiroir, parce que il commence comme un magnifique plaidoyer contre la peine de mort. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre livre aussi sur la guerre aux Philippines. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la guerre des Américains contre les Japonais aux Philippines, et ce qu'on découvre est inouï. Il y a une sorte d'abandon de ces soldats, mais atroce. Il y a des scènes dans un camp concentrationnaire qui sont vraiment à la fois terribles, mais très belles. Et puis après, il y a un troisième livre qui commence sur la résilience. C'est que vous avez deux jeunes gens qui sont héritiers d'un père condamné et d'une mère qui est dans un asile psychiatrique. Le personnage de la mère est très, très, très beau. Elle a été emprisonnée par son mari, hospitalisée donc de force dans un hôpital psychiatrique. Et c'est elle qui aura évidemment le fin mot de l'histoire. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre grandiose, vraiment à la fois... avec une intrigue très forte, mais aussi une beauté de situation sur la jalousie, sur la tromperie, et puis évidemment sur la ségrégation. Mais tout en demi-teinte, je trouve que c'est jamais un livre qui fait des grands discours. Moi, j'avais pas lu Grisham depuis longtemps, et honnêtement, j'ai trouvé que c'était du très beau travail.
Jean-Claude.
Ah bah écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, c'est une redoutable mécanique romanesque qui en fait tient sur peu de choses. Je parle en termes de style, hein, parce que l'histoire est absolument extraordinaire. Mais en termes de style, c'est en fait des phrases toutes simples, hein, qui s'enchaînent les unes aux autres.
Ah oui, c'est l'enfèvre.
Oui, voilà, il n'y a pas d'effet de style, et vous le lâchez pas. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'addiction tout de suite. Dès la première page, vous êtes pris, vous allez jusqu'à la dernière, vous lâchez pas, et vous vous rendez compte qu'il ne fait pas d'effet de style. Alors ça repose sur les deux mystères dont on a parlé, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles ce type fait cet acte-là, va tuer ce pasteur, et l'autre mystère qui est les raisons de l'internement de sa femme. Il y a évidemment l'évocation du Mississippi dans les années 40, on a parlé tout à l'heure de la chaise électrique, alors la chaise électrique en fait elle arrive à la fin des années 40, mais jusqu'aux années 40, on pend, on tue les condamnés par par la pendaison et on découvre, on apprend dans ce livre que les blancs, quand ils sont pendus, ça se fait en huis clos. Et pour les noirs, c'est en public. Tout le monde voit l'exemplarité de la chose. Olivia, tu as bien fait d'insister sur le long tunnel, mais c'est pas au sens péjoratif. C'est-à-dire que il incruste à l'intérieur de son livre un très long bloc sur la guerre, effectivement, aux Philippines. Et surtout, ce qu'on découvre, c'est l'atrocité des Japonais. Tu as parlé du camp concentrationnaire, mais les marches de la mort sont ahurissantes. Enfin, les marches de la mort infligées aux prisonniers philippins et aux prisonniers américains. Du coup, on se dit, et je suis un peu désolé de le dire comme ça, mais on se dit que on comprend presque pourquoi les Américains ont fini par lâcher la bombe atomique sur les Japonais.
Tu ne peux pas aller jusque-là.
Je ne suis pas en train de le justifier, Jérôme. Je suis en train d'expliquer pourquoi, stratégiquement, à un moment, les Américains en sont venus là, qui est un acte absolument ignoble, tout ce que tu veux. Mais
on a presque franchi le point Godwin, là.
Quand on traverse ce long tunnel...
Je comprends ce que tu veux dire. Hein.
Oui, bien sûr. Mais merci, Olivia.
C'est
quand, quand on traverse ça et qu'on voit surtout... Et ce qu'on découvre aussi, c'est que MacArthur, qui passe toujours dans l'histoire pour un type assez génial. En fait, on découvre que c'était un type opportuniste, MacArthur, et un très piètre stratège.
Oui, enfin,
en plus abandonné.
Certes, mais tout le monde a vu le pont de la rivière Kouai. Et tout le monde sait que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire aussi.
Alors, il y a juste une petite chose, c'est que moi, je trouve que vers la fin, il tire un tout petit peu à la ligne, il fait durer le plaisir, et je lui reproche une chose. En tout cas, moi, je lui en veux, c'est que la façon dont il résout les deux mystères qui ont tenu le livre du début jusqu'à la fin, il le bat en quelques pages, et pour le coup, ça manque de rebondissement, et on se dit, mais tout ça pour ça? Mais quel dommage, quoi.
Mais c'est ça qui est beau. Ouais, c'est justement ça, c'est à l'image même de la loi. La sentence est levée, et effectivement, ça tient en quelques phrases.
Bon, voilà. En tout cas, oui, c'est évidemment un livre à lire, et c'est un livre formidable, ouais.
Alors, qu'en pense Patricia, qui ne se balade pas, je sais, sans son Colt 45, Patricia?
Non, mais il y a déjà beaucoup de choses que vous avez dites. C'est un roman absolument formidable, ça, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est assez difficile, parce qu'il y a un suspense incroyable, et c'est difficile de tenir en haleine comme ça le lecteur, quand finalement, dès le début, on connaît quand même la fin. Et le début, il est glaçant. Mais pour revenir aussi à ce que tu disais, Jean-Claude, sur la question japonaise, il y a, je crois, au Japon, et je ne suis pas historienne, mais je crois qu'il y a quand même une forme de révisionnisme sur la question, justement, des atrocités commises. Et il y a un musée, je crois que c'est à Tokyo, qui présente quand même les choses de façon très partielle. Et sur cette marche de Bataan, d'ailleurs, la marche de la mort, je vous conseille aussi un livre qui a été formidable, qui est écrit par un Australien, Richard Flanagan, qui a écrit La route étroite vers le nord lointain, qui a eu le Booker Prize, et qui a été inspiré par l'expérience de son propre père, qui a été détenu dans un camp de prisonniers, et qui est aussi un livre formidable. Et les Japonais, finalement, sont restés très prudents. Il y a eu des excuses officielles, mais des excuses verbales. Il n'y a jamais rien eu d'écrit. Et je trouve qu'il incarne tout ça d'une manière magnifique, que ce soit effectivement les personnages des enfants. Moi, enfin, j'ai chialé à la fin, j'ai vraiment chialé.
Ah oui.
La sentence, c'est chez La Tesse, et c'est le nouveau roman, nouveau succès de John Grisham, paru chez Grasset. C'était juste à la veille du confinement. C'est L'avenir des simples, très beau titre, de Jean Rouault, l'auteur, je le rappelle, des Champs d'honneur, prix Goncourt 1990, un livre présenté, sur la bande en tout cas de l'ouvrage, présenté comme un petit traité de résistance, et dans lequel Jean Rouault enfile son gilet jaune pour dénoncer, il dénonce beaucoup de choses, hein, mais notamment la surconsommation, le libéralisme, les GAFA, les multinationales, qu'il appelle les multi-monstres, le CAC 40, l'agriculture intensive, la sale cuisine de laboratoire, comme il dit, et j'en oublie. En revanche, il célèbre la commune, il préconise de prendre son temps, de rouler à vélo, de cuisiner des légumes et surtout d'être vegan. Seul acte de résistance efficace, selon lui, parce qu'il permet de réduire le réchauffement, de soulager la terre et les mers de leurs rejets toxiques. Rêver, y écrit-il, Jean Rouault, rêver n'implique pas d'être naïf. La preuve, cet avenir des simples, Jean-Claude, est-ce qu'il t'a touché?
Bien sûr qu'il m'a touché, parce que oui, c'était vraiment, enfin là, la bande de Grasset est juste, oui, c'est un petit traité de résistance à l'ordre néolibéral du monde, et qui, comme il a été écrit juste avant le dramatique épisode du Covid, du coup, il trouve une résonance encore plus forte, hein, puisqu'on s'est retrouvé,
absolument,
on s'est pris le mur vers lequel on allait. C'était une expression qu'on n'arrêtait pas de dire. On disait toujours, on va droit dans le mur, on va droit dans le mur. Eh bien, on vient de se le prendre, le mur, d'une façon tout à fait inattendue. Et ce que décrit Jean Roux est précisément, on est aussi au pied du mur. Voilà. Et ce qu'il dit, c'est qu'il faut qu'on récupère très vite, et ça, vraiment, ça urge notre liberté. C'est-à-dire qu'on s'est fait confisquer notre liberté par ces multi-monstres, donc en effet, les GAFA dont tu parlais, mais aussi l'oligarchie financière. Et qui nous a tout pris avec notre assentiment. C'est-à-dire que c'est aussi une description de la servitude volontaire. C'est clair que toutes les techniques mirobolantes qui font soi-disant notre bonheur et en tout cas qui assurent le progrès, on s'y est jeté dessus avec appétit, avec gourmandise, avec envie, voilà. Sauf que on s'est retrouvé enchaîné à ça, et ce que dit Jean Roux, c'est qu'il est temps qu'on devienne des objecteurs de conscience de cette surconsommation euphorique permanente de tout et qui nous a servi plus qu'elle nous libère. Donc il dit, il faut revenir à la liberté et récupérer surtout nos savoir-faire, et qui sont très simples. Tu parlais de vegan, c'est vrai, c'est ce qu'il emploie, c'est ce qu'il dit, mais ce qu'il explique très bien, je trouve, c'est comment ces multi-monstres ont su orchestrer et bien instrumentaliser notre dépendance, notre désir de nous soumettre, parce qu'il y a un désir de nous soumettre. Le livre est en gros l'illustration de ce que disait Patrick Lelay, c'est-à-dire comment ces multi-monstres se servent du temps de cerveau humain disponible pour s'engouffrer là-dedans, et combien on est très heureux de ça, jusqu'au moment où ce bonheur fait vraiment notre malheur. Et on le sent tous, qu'il y en a marre, qu'on est tellement dépendant de tout ça, et le Covid a bien montré qu'on était prisonnier de quelque chose dont on n'arrivait pas à se libérer, et qu'après tout, cet arrêt obligatoire, imposé, forcé, va bien nous obliger à réfléchir autrement. Et le livre de Jean Roux, d'une certaine façon, nous aide à ça.
Alors, le livre est très polémique, mais c'est aussi, je trouve, un bel éloge de la vie au quotidien quand on fait des choix simples, des choix véganes d'ailleurs. C'est en sens que pour moi, c'est aussi un livre d'écrivain. C'est pas simplement un pamphlet. Arnaud.
Oui, et tu as tout à fait raison de parler d'un livre d'écrivain, et ça m'a fait penser à un livre qui n'était pas un livre d'écrivain, mais qui était le livre d'une critique littéraire à l'époque très connue, Viviane Forester. Ce livre s'appelait L'horreur économique. Il a connu un immense succès.
C'était prémonitoire.
Immense succès de librairie. Donc elle disait ce que finalement tout le monde dit depuis maintenant une trentaine d'années. Et c'est la même chose avec Jean Roux, c'est-à-dire que ce qu'il raconte, moi je l'ai déjà lu mille fois. On n'a pas manqué de livres pour nous avertir. Celui-là n'est que, encore une fois, la énième roue du carrosse. Il a été écrit juste avant, ou plutôt, je veux dire, il termine de l'écrire fin décembre. Donc c'est le moment.
Oui, il est sorti vraiment une semaine avant le confinement.
Ce qui est étrange, je vais vous dire, c'est que je l'avais lu avant donc le début de la crise, je l'ai rouvert pour préparer cette émission, et que j'ai trouvé, malgré tout, qu'il avait déjà pris un petit coup de vieux, un petit coup de patine, parce que il n'est pas exactement dans le tempo, finalement. On veut pas, c'est pas l'avenir des simples. Ce qu'on désire aujourd'hui, là, c'est juste un simple avenir. Et c'est là où le livre pêche un peu.
Olivia, qui devient de plus en plus végane, qu'est-ce qu'elle en pense?
Moi, je trouve que c'est un livre d'un pessimisme noir. Hein. À côté, le roman de Giono est une promenade de santé. Hein. C'est un livre très, très, très noir, dans lequel on a l'impression que la déraison a pris le pouvoir partout dans le monde entier. Et ceci avec l'aval des experts, des philosophes et des scientifiques qui sont payés finalement pour se taire et pour dire que tout va bien. Je trouve que la manière dont il épingle les petites phrases qu'on ne cesse d'entendre aux informations est géniale. Vous savez, ces petites phrases, c'est « Pour l'heure, rien ne permet d'établir un lien de conséquence entre les désherbants et les enfants qui naissent sans bras ». Je pense que les enfants qui naissent sans bras, c'est la chose qui m'a le plus effarée dans les dernières années. Et la manière dont il en parle est spectaculaire. La manière dont il parle du détournement des mots. Par exemple, quand on parle de frappe chirurgicale, c'est un mot qui est censé réparer alors qu'il détruit. Je trouve que la manière qu'il a de dépeindre ce monde dans lequel on vit, dans lequel on ne respecte plus les animaux, est tout à fait étonnante. J'ai été très frappée de voir que très souvent, ce sont des femmes qui les premières réagissent. Il y a une anecdote autour de Claude Bernard, ce biologiste qui se flattait d'avoir découpé 10 000 grenouilles et dont on
alors
dit
lui,
que sa femme...
Pour lui, hein.
Et oui, mais alors tu vois, c'est ce que je ne savais pas, c'est que sa femme le quitta parce qu'elle ne supportait
et
plus de partager
aussi.
Sa couche. Et ses filles deviennent des militantes de la cause animale. Après, moi, je trouve que ce qui est difficile dans ce livre, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de solutions et qu'il n'y a pas beaucoup d'horizons. Alors, le seul que j'ai trouvé et que j'ai trouvé magnifique, c'est un passage à propos de Vassili Grossman qui explique qu'il croyait en ce qu'il appelle la petite bonté. La petite bonté qu'il oppose à la bonté universelle. On se drape dans sa vertu pour mieux dénoncer les ennemis. Et que la petite bonté, qui est toujours bouleversante, qui est toujours inattendue, qui n'est pas comptable, eh ben, que peut-être c'est elle qui va finir par nous sauver. Mais ce livre m'a vraiment
Patricia.
Perturbée.
C'est un livre d'une grande, grande radicalité. Quand il évoque, par exemple.
Oui, c'est pour ça que je disais que c'était un peu un livre de, aussi au début, dès le début, de, où il ne cache pas sa passion des Gilets jaunes et de leurs convictions. Hein.
Oui, mais il rejette, au fond, il parle effectivement d'objecteur de conscience civile, il idéalise un peu, d'une certaine manière, l'anarchie, il rejette, au fond, tout système politique, à commencer d'ailleurs par la démocratie, puisqu'il dit que ce n'est qu'un simulacre. Donc on est vraiment dans le dur. Et ce qui est étonnant, c'est que ce soit lui qui écrive ça. Parce que Rouault, pour moi, c'est quelqu'un, quoi qu'il écrive, qui est quelqu'un de plutôt de doux, de nuancé, qui parle à voix basse, qui dans son œuvre a plutôt évité l'esprit de sérieux. C'est l'écrivain du silence, de la modestie, un écrivain qui était soumis.
Oui, mais Patricia, je te rappelle que c'est... Et il parle, son titre c'est L'avenir des simples, mais ces simples, on les trouve dans tous les romans de Rouault depuis le début.
C'est vrai,
il a quand même une attention particulière aux gens simples, aux gens de peu. Il est fidèle à son esprit.
Son paraître a volé en éclats, il s'est affranchi de plein de choses, il s'autorise à dire les choses et il les dit de façon très frontale. Et c'est un livre d'avenir, j'en sais rien, en tout cas c'est un livre de grande, grande incertitude parce que le monde, et il le montre bien, le monde est diabolique, il est destructeur. Donc c'est vrai que c'est un roman quand même assez sombre.
C'est pas un roman, c'est un pamphlet, absolument. L'avenir des simples, c'est Jean Rouault et c'est chez Grasset. On a peu de temps pour évoquer ce dernier livre, mais on va dire quelques mots. C'est La Nuit Atlantique, le roman pour le coup chez Actes Sud d'Anne-Marie Gara, où Hélène, une femme de 36 ans, décide de vendre sa maison qui est située sur une dune au bord de l'Atlantique, c'est dans le sud-ouest, qu'elle avait achetée à une institutrice 10 ans plus tôt. Hélène se vante d'être une femme active, célibataire, nulle y part. Elle quitte Paris un soir dans une voiture qu'elle a louée et elle découvre en débarquant que sa maison est squattée par un jeune photographe nippo-canadien, sans compter l'arrivée de sa chère filleule Bambi qui a de gros soucis personnels. Et puis on va encore ajouter un voisin séduisant, une tempête, des inondations, des légendes locales très noires. Bref, on est, je le disais, roman, mais on est aussi à la frontière de la fable. Dites-moi, mais rapidement, ce que vous en pensez, Patricia ?
Bah, du bien, d'abord parce que moi j'aime bien Anne-Marie Gara. Elle fait de très beaux portraits de femmes, de l'orpheline à la marâtre. C'est souvent inquiétant, il y a toujours des enquêtes comme ça, ou des évocations de mémoire familiale, c'est une réalité qui secoue. Et là, elle joue d'abord beaucoup avec le temps. Alors, un temps long qui n'en finit pas. J'entends déjà Arnaud qui s'est enquiquiné. Parce que toute
j'ai
la première
rien dit
partie
encore.
Du livre, c'est vrai.
Non, il n'a rien dit.
Elle
hein.
est exposée, toute la première partie, oui, je te connais un petit peu quand même. Toute la première partie du livre est exposée à une attente, à un ennui. Et puis tout à coup, ça explose. Et avant qu'un paysage se dessine, justement, il n'y a pas grand-chose. Puis tout à coup, il y a des bouleversements telluriques. Et ici, c'est ce qui se passe. Il y a une tempête intérieure et il y a une tempête dans la nature. C'est Hélène qui croit qui est un peu psychorigide, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut faire, qui est assez déterminée et cloîtrée. Peu à peu, eh ben, les événements vont la dessiner autrement. Et on va deviner un volcan en elle, un volcan qu'elle refuse au départ et contre lequel elle se bat. Mais ses sens sont en sens dessus dessous parce que c'est très très sensuel. Sa pensée aussi parce qu'elle est confrontée à l'autre, elle est confrontée à la différence, elle est confrontée aussi à la ressemblance et elle devient, on peut même dire, elle est mue par quelque chose, elle est devenue.
Alors c'est vrai Arnaud que tu fais la moue ou pas ?
J'ai adoré.
C'est vrai.
D'abord, oui, bien sûr. Ouais, j'ai adoré. Comme quoi, tu me connais pas si bien que ça. J'ai adoré. C'est un véritable. D'abord, c'est un grand livre sur le bordelais, tout simplement. Et cette narratrice est absolument remarquable. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup plu. Et pour une raison simple, c'est qu'elle est travaillée par une chose qui m'a beaucoup travaillé aussi, je dois le dire, je dois l'avouer. C'est le problème qu'il y a eu entre Franz Kafka et Max Brod. Qu'est-ce qui s'est passé entre Franz Kafka et Max Brod, qui était son meilleur ami? C'est que Kafka lui a demandé de tout brûler à sa mort et que Max Brod n'en a rien fait pour notre plus grand bonheur, évidemment. Il n'en reste pas moins et c'est un véritable dilemme. Donc il y a vraiment quelque chose là de très beau et tout ça est enveloppé par une espèce de Babil romanesque, mais qui raconte très très bien l'époque lui aussi. Et les personnages sont formidables. L'adolescente qui arrive, qui est surnommée Bambi, personnage de jeunes photographes qui vient photographier les bunkers. Tous les personnages sont très réussis. On est pris dans quelque chose qui ressemble un peu à du Laura Kechiche, un peu. On sent qu'il y a un léger mystère qui plane dans tout ça. Mais surtout, moi, ce que je trouve dans ce livre et qui est remarquable, c'est que, en dépit d'une espèce de phrases complexes, un peu contournées, qui donnent à la fois le sentiment du temps, mais qui essayent aussi de construire une espèce de petite modernité, il y a quelque chose d'une joie. Tout simplement, d'une joie qui passe et qui fait qu'on a la banane. On a la banane en lisant ce truc.
Jean-Claude, je sais que c'est ta région, mais je vais demander que tu sois un peu bref sur ce livre, La Nuit Atlantique.
J'ai adoré ce livre, mais vraiment adoré. J'ai aussi retrouvé des traces de l'univers cher à Eric Holder qui habitait exactement à l'endroit où se passe ce roman.
Qu'on regrette tous.
Oui, mais ça, je suis bien d'accord. Non, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre de Marie Guéra, mais quand je dis beaucoup aimé, c'est plus que ça. Je trouve que c'est une virtuose de la description. C'est-à-dire que il y a une beauté de la langue chez elle. C'est-à-dire que quand je dis virtuose de la description, c'est qu'elle a à la fois la gourmandise et le génie. La beauté de son style tient justement à ce que disait Arnaud, à la longueur de ses phrases et un style très travaillé, avec des phrases qui sont sinueuses, qui sont envoûtantes, enfin, et elle est très très forte dans les descriptions des ciels changeants, de la permanence des paysages, mais aussi des tourments des personnages, de ce que c'est que l'épaisseur de la solitude, l'invention de nos vies, l'échafaudage des illusions. Et il y a quelque chose de très 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 envoûtant dans ce livre. Comme on me demande de faire court, je vais faire court.
Ce sera le mot de la fin sur le Anne-Marie Guéra. C'est pour ça que je te donne la parole, Olivia.
J'ai trouvé que c'était très beau. Je dois dire que cette phrase qui vous enveloppe, qui vous perd, qui vous roule dans les vagues, parfois on est un peu sonné quand même, parfois on est un peu perdu, mais en sourd une sorte de mélancolie de l'arrière-saison, très très belle. Moi j'aime beaucoup les livres dont les héros sont des maisons. Et là, ce qui est assez fort, c'est que c'est une maison qu'elle n'aime pas. Le début du livre, c'est une maison dont elle veut se débarrasser. Et puis, par la beauté...
Remarque, c'est pas une maison qui est très aimable non plus.
Non, c'est vrai, mais il y a des maisons peu aimables qu'on aime quand même.
C'est la maison hantée, en fait, tout simplement. Hein, c'est une maison hantée.
Oui, moi, ça m'a fait penser, et ce n'est pas pour rien, à mon avis, qu'elle a choisi comme prénom pour une femme qu'elle a rencontrée, Laura. Moi, ça m'a fait penser au grand film noir Laura, ou au fantôme de Mrs. Muir aussi.
Ah oui.
Je trouve qu'il y a... quelque chose de cet ordre-là, et avec des personnages extrêmement sympathiques. C'est rare de voir des personnages aussi sympathiques. Ouais. Et tout d'un coup, comme dit Arnaud, eh bien, la joie finit par l'emporter sur la mélancolie.
Eh bien, on vous conseille tous de lire La Nuit Atlantique chez Actes Sud. Anne-Marie Guéra, le temps est venu des conseils, puisque tu as la parole et le micro, si j'ose dire. Olivia, donne-nous ton conseil.
Alors c'est un livre très drôle, parce que c'est vrai que les livres qu'on a lus aujourd'hui étaient très beaux, mais pas forcément très comiques. Un mariage en 10 actes de Nick Hornby, c'est un roman qui devait sortir avant le confinement et qui va sortir finalement à la fin du mois de mai. Ce sont 10 scènes de la
Qu'on va inscrire au masque d'ailleurs.
Ah ben voilà, bon alors 10 scènes de la vie d'un couple qui va fort mal, parce que l'épouse a trompé son mari. Et à chaque fois, on les retrouve au même endroit, c'est-à-dire au café, en attendant leur rendez-vous chez la conseillère conjugale. C'est d'une drôlerie peu commune sur le couple, mais aussi, je trouve, sur l'époque. Moi, j'ai pleuré de rire toute seule, très souvent. C'est un tout petit livre.
Encore une fois, on en reparlera au masque. Et attention, ne vous jetez pas sur chez votre libraire, fût-ce par Internet, parce que le livre n'est pas encore sorti. Le conseil de Patricia.
Ce crime est à moi. Il s'agit d'un premier roman de Philippe Ridet, qui est grand reporter au journal Le Monde, qui a écrit d'autres livres, mais jamais de romans.
Oh, j'ai adoré ce livre.
C'est un livre qui est... Tu l'as aimé aussi ?
Oui, adoré. C'est génial.
C'est formidable. C'est un livre qui est très difficile à raconter, sinon que ça tourne beaucoup autour du pourquoi. Pourquoi est-ce que tout à coup une jeune fille tue son amoureux ? Pourquoi est-ce qu'un autre, en l'occurrence le narrateur, va s'approprier l'histoire de ce crime ? Il le fait sien, en quelque sorte, mais tout au long de sa vie. De toute façon, on est confiné dans tout un tas d'angles morts de l'existence. L'un des angles morts étant le sexe. C'est un très très beau livre, c'est aux éditions des Équateurs.
Patricia, je retiendrai ta formule qui est très belle. L'angle mort, c'est le sexe. Mon conseil, c'est Le bruit de la mer de Franck Maubert chez Flammarion. Et c'est une belle histoire, puisque pour donner un peu de sursis, un peu de grand air à son ami, le formidable dessinateur Pierre Le Tan, vous savez, l'illustrateur fétiche de Modiano, qui était atteint d'une maladie incurable. Franck Maubert est parti le long des côtes françaises, des Hauts-de-France à la Gironde de Jean-Claude, de la Normandie à la Bretagne, et il a fait voyager avec lui Pierre Le Tan, son ami malade, juste avant sa mort en septembre 2019. C'est un très beau geste, et c'est aussi un beau livre et une promenade le long des côtes françaises assez inoubliable. Le bruit de la mer, donc, chez Flammarion. Le conseil d'Arnaud.
Alors, si vous aimez le blues et le rhythm and blues, j'ai trouvé un livre formidable que vous pouvez acheter dans les librairies, qui est sorti au mois de mars, je crois, qui s'appelle de Christian Cassani. C'est aux éditions Le Mot et le Reste. Ça s'appelle Duke, et donc c'est sous-titré 101 portraits de bluesman. Et il faudrait ajouter d'ailleurs de blueswoman, parce qu'il y a des portraits de Betty Smith, d'Etta James. Et alors, vous savez, B.B. King disait, chanter le blues, c'est être noir deux fois. Et alors, quand vous êtes une chanteuse de blues, là c'est être noir quatre fois, c'est des destins souvent tragiques. Et il écrit donc 101 portraits, c'est très court, c'est pas du tout un truc d'érudit, c'est un truc d'amoureux du blues.
Et c'est chez qui ?
Le Mot et le Reste. Le Mot et le Reste, c'est cet éditeur de Marseille, Le Mot et le Reste, spécialisé dans la musique.
Le conseil de Jean-Claude pour finir.
Moi, j'ai déjà signalé au masque les livres d'Agnès Clancier, parce que j'aime le style de cet auteur, sa sensibilité, son coup d'œil. Donc je réitère et je récidive avec son nouveau roman qui est sorti le 11 mars, qui s'appelle Le corps de Sankara, c'est aux éditions du Rocher. C'est l'itinéraire de deux Français au Burkina Faso, l'un qui est fonctionnaire à l'ambassade en fin de carrière et qui va investir dans d'hypothétiques mines d'or, et une jeune étudiante qui vient éponger un chagrin d'amour dans une association humanitaire locale qui creuse des puits dans de lointains villages. En fait, c'est la chronique des revers et des désillusions de ce désabusé et de cet idéaliste au Burkina Faso, dont je vous rappelle que le Burkina Faso, sa traduction, c'est le pays des hommes intègres. Et en fait, d'hommes intègres, le Burkina Faso se pose un peu là. En réalité, c'est un récit truculent et assez mélancolique sur une certaine réalité africaine d'arrangements obscurs, de corruption permanente, que semble bien connaître Agnès Clancier. C'est le roman des expatriés déphasés qui subissent plus qu'ils ne maîtrisent la dérive que leur impose une réalité, une culture et des coutumes qui leur échappent. Donc, Le corps de Sankara.
Tous ces conseils, Jean-Claude, je t'interromps parce que l'émission se termine. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur la page du masque et la plume franceinter.fr. Merci où que vous soyez. Merci Olivia de Lamberterie, Patricia Martin, Jean-Claude Raspienjas et Arnaud Vivian pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam et réalisée depuis sa buanderie par le formidable Xavier Pestugia. Je vous dis à dimanche prochain, 11h et 20h pour un masque de cinéphile sur France Inter, évidemment.